Chapitre 5e. Tourment d'idées. Un mois s'était écoulé depuis que la mère de Robert Gresloup avait apporté dans l'ermitage de la rue Guy de la Brosse l'étrange manuscrit qu'Adrien Sixte avait tant hésité à lire, puis sur lequel il avait passé toute une nuit de douloureuse, d'affolante curiosité, et le philosophe restait à ce point l'esclave, après ces 4 semaines, du trouble infligé par cette lecture, que même les humbles comparses de son entourage avaient dû s'en apercevoir. C'était maintenant de continuelles consultations entre Mademoiselle Trappenard et les Carbonnet, dans la loge emplie d'une odeur de cuir, où la fidèle servante et les judicieux concierges discutaient à perte de vue la cause du bizarre changement survenu dans les manières du célèbre écrivain. C'est admirable, cette automatique régularité des sorties et des rentrées qui, pendant 15 ans, avait fait de Sixte une espèce de chronomètre vivant pour tout ce paisible quartier du Jardin des Plantes, venait de se transformer tout d'un coup en une anxiété fébrile et inexplicable. Le philosophe allait et venait depuis cette visite de Madame Gresloup, comme un homme agité, qui ne peut tenir en place, qui à peine en promenant pense à rentrer, et à peine rentré ne peut pas supporter sa chambre. Dans la rue, au lieu de cheminer de ce pas méthodique et qui révélait une machine nerveuse parfaitement équilibrée, il se pressait, il s'arrêtait, il gesticulait, comme disputant avec lui-même. Cet énervement se traduisait par des signes plus étranges encore. Mademoiselle Trappenard avait raconté aux époux Carbonnet que son maître ne se couchait plus à présent avant des 2 et 3 heures du matin. « Et ce n'est pas pour travailler, » insistait la brave fille, « car il marche. La première fois j'ai cru qu'il était malade. Je me suis levé pour lui demander s'il voulait quelque infusion. Lui, toujours si poli, si doux, qu'on ne se douterait pas que c'est un homme instruit comme il est, il m'a renvoyé là, mais renvoyé en vrai brutal. Et moi qui l'ai vu l'autre jour, » répondait la mère Carbonnet, comme je revenais d'une course, installée au café, je n'en croyais pas mes yeux. Il était là, derrière les vitres, qui lisait un journal. Si je ne le connaissais pas, j'en aurais eu peur. Il aurait fallu voir cette figure, et ce front plissé, et cette bouche. Au café ? S'était écriée Mademoiselle Trappenard. Depuis 16 années tantôt que je suis chez lui, je ne lui ai pas seulement vu ouvrir un journal une fois. Cet homme-là, conclut le père Carbonnet, a un chagrin qui lui malichaude les esprits. Et le chagrin, voyez-vous, mademoiselle Mariette, c'est comme qui dirait le tonneau d'Adélaïde, ça n'a pas de fond. Pour un fait, c'est un fait que ça a commencé par l'histoire du juge et la visite de la dame en noir. Et savez-vous ce que je pense? C'est peut-être quelque fils qu'il a quelque part qui tourne mal. Jésus-Dieu! Exclamait Mariette. Lui, un fils? Et pourquoi pas? Reprenait le concierge, clignant derrière ses lunettes un œil aigriard. Avec cela qu'il n'a pas pu galipander tout comme un autre en son jeune temps. « C'est toi, canaille, qui voudrais bien t'en aller faire tes farces » continuait-il en s'adressant à son coq, qui se promenait en poussant de petits cris parmi les rognures, happant les boutons au passage et secouant sa crête. À regarder ce courasson de Ferdinand, comme il l'appelait encore, Carbonnet oubliait jusqu'à ses curiosités de pipelet parisien. Ferdinand lui sautait sur l'épaule et se tenait là, immobile, tandis que son maître reprenait son marteau et clouait une semelle assurée sur une forme en murmurant sa même joyeuse exclamation. « C'est-y une bête? C'est-y une personne? Non, je vous le demande. » Puis il communiquait à Mademoiselle Trappenard, épouvantée, les bruits qui couraient sur le compte de ce pauvre monsieur Sixte, dans les rez-de-chaussée de la rue Linnée, depuis ce changement visible d'habitude. Toutes les mauvaises langues s'accordaient pour attribuer à la citation chez le juge le trouble actuel du philosophe. La blanchisseuse prétendait tenir d'un pays de M. Sixte que sa fortune provenait d'un dépôt dont son père avait abusé et qu'il devait rendre. Le boucher racontait à qui voulait l'entendre que le savant était marié et que sa femme était venue pour lui faire une scène atroce et lui intenter un procès. Le charbonnier avait insinué que le digne homme était le frère d'un assassin dont l'exécution, sous le faux nom de Campi, tourmentait encore à cette époque les cervelles populaires. « Je n'irai plus chez eux, » gémissait Mademoiselle Trappenard. C'est idiot possible d'imaginer de pareilles horreurs. » Et la pauvre fille quittait la loge toute navrée. Cette grande créature, haute en couleur, forte comme un bœuf malgré ses 55 ans, demeurait paysanne avec ses gros souliers, ses bas de laine bleue tricotés par elle-même et son bonnet collé sur son chignon serré, ressentait pour son maître une affection d'autant plus forte que tous les éléments de sa franche et simple nature y étaient à la fois engagés. Elle respectait en lui le monsieur, le personnage éduqué et dont elle savait que les journaux avaient parlé souvent. Elle chérissait dans le vieux garçon qui ne vérifiait jamais ses comptes et la laissait maîtresse au logis, une source assurée pour son bien-être et les rentes de ses vieux jours. Enfin, elle protégeait, elle, la solide, la robuste, cet être faible de corps, presque chétif et si simplet, comme elle disait, qu'un enfant de 10 ans l'aurait dupé. Aussi, de pareils propos, la froissait-il dans son orgueil, en même temps que l'altération d'humeur si soudaine du savant lui rendait leur commun intérieur presque inconfortable. Et puis, par véritable affection, elle s'inquiétait de ce que son maître ne mangeait presque plus et ne dormait guère. Elle le voyait si triste, si soucieux, il n'arrivait pas à l'égayer, ni même à deviner le motif de cette mélancolie grandissante et de cette agitation. Que devint-elle lorsqu'une après-midi du mois de mars, Sixte revint vers 5 heures, après avoir déjeuné au dehors, et qu'il lui dit « La valise est-elle en bon état, Mariette ?»« Je ne sais pas, monsieur, » répondit la servante. « Monsieur ne s'en est pas servi depuis mon entrée dans la maison. »« Allez la chercher, » dit le philosophe. La fille obéit. Elle apporta du grenier une mallette en cuir poussiéreuse, aux serrures rouillées et dont les clés manquaient. « Très bien, » reprit M. Sixte. « Vous allez en acheter une à peu près pareille tout de suite et vous y mettrez ce qu'il faut pour voyager. »« Monsieur part ?» interrogea Mademoiselle Trappenard. « Oui, » dit le philosophe, « pour quelques jours. »« Mais monsieur n'a rien de ce qu'il faut, » insista la vieille servante. « Monsieur ne peut pas s'en aller comme cela, sans couverture de voyage, sans... »« Procurez-vous ce qui est nécessaire, » interrompit le philosophe, « et dépêchez-vous, je prends le train à 9 heures. »« Et il faudra que j'accompagne, monsieur. »« Non, c'est inutile, » dit Sixte. « Allons, vous n'avez que le temps. » Pourvu qu'il n'ait pas l'idée de se périr, fit Carbonnet quand Mariette, descendue à la loge, lui eut raconté ce nouvel événement, presque aussi extraordinaire dans ce petit coin du monde que si le philosophe eût annoncé son mariage. « Ah !» dit la servante, suivant son idée, « si seulement il voulait me prendre avec lui. Quand je devrais le payer de ma poche, j'irai. » Ce cri, sublime dans la bouche d'une créature venue de Péogre en Ardèche pour être domestique, et qui poussait l'économie jusqu'à se tailler ses caracos d'appartement dans les vieilles redingotes du savant, prouvera mieux que toutes les analyses quelles inquiétudes inspiraient à ces petites gens la métamorphose opérée dans cet homme qui traversait en effet une crise morale, pour lui terrible. Et, ne se sachant pas regarder, il en laissait voir toute l'intensité dans ses moindres gestes aussi bien que dans les traits de son visage. Depuis la mort de sa mère, il n'avait pas connu des heures aussi dures, et du moins la souffrance infligée alors par l'irréparable séparation était demeurée toute sentimentale, au lieu que la lecture du mémoire de Robert Gresloup avait du coup atteint le philosophe dans le centre même de son être, au plus profond de cette vie intellectuelle, sa seule raison d'exister. Au moment où il donnait à Mariette l'ordre de préparer sa valise pour son départ, il était aussi pénétré d'épouvante que dans la nuit où il feuilletait ce cahier de confidences. Elle avait commencé, cette épouvante consternée, dès les premières pages de ce récit, où la plus criminelle aberration d'âme était étudiée, comme étalée avec un tel mélange d'orgueil et de honte, de cynisme et de candeur, d'infamie et de supériorité. À rencontrer la phrase où Robert Gresloup se déclarait lié à lui par un lien aussi étroit qu'imbrisable, le grand psychologue avait tressailli, et il avait tressailli de même à chaque rappel nouveau de son nom dans cette singulière analyse, à chaque citation d'un de ses ouvrages qui lui prouvait le droit de cet abominable séducteur à se dire son élève. Une fascination faite d'horreur et de curiosité l'avait contraint d'aller d'un trait jusqu'au bout de ce fragment de biographie dans lequel ses idées, ses chères idées, sa science, sa chère science apparaissaient unies à des actes si honteux. Ah, s'ils y avaient été seulement unis! Mais non, ses idées, cette science, l'accusé de Rion les revendiquait comme l'excuse, comme la cause de la plus monstrueuse, de la plus complaisante dépravation. À mesure que Sixte avançait dans le manuscrit, il lui semblait qu'un peu de sa personne intime se souillait, se corrompait, se gangrenait, tant il retrouvait de lui-même dans ce jeune homme, mais un lui-même cousu, par quel mystère, au sentiment qu'il détestait le plus au monde. Car dans ce philosophe illustre, les saintes virginités de la conscience demeuraient intactes, et derrière le hardi nihiliste d'esprit, un noble cœur d'homme naïf se dissimulait toujours. C'était là, dans cette conscience intacte, dans cette honnêteté irréprochable, que le maître du précepteur Félon se sentait soudain déchiré. cette sinistre histoire d'une séduction si bassement poussée, d'une trahison si noire, d'un suicide si mélancolique, le mettait face à face avec la plus affreuse vision, celle de sa pensée agissante et corruptrice, lui qui avait vécu dans le renoncement volontaire et avec un idéal quotidien de pureté. Toute l'aventure de Robert Gresloup lui montrait dans ses livres les complices du plus hideux orgueil et de la plus vile sensualité, lui qui n'avait jamais travaillé que pour servir la psychologie en modeste ouvrier d'un travail qu'il croyait bienfaisant, et dans l'ascétisme le plus sévère, afin que jamais les ennemis de ses doctrines ne puissent arguer de son exemple contre ses principes. Cette impression fut d'autant plus violente qu'elle fut plus subite. Un médecin de grand cœur éprouverait une angoisse d'un ordre analogue, si, ayant établi la théorie d'un remède, il apprenait qu'un de ses internes en a essayé l'application et que toute une salle d'hôpital est à l'agonie. Avoir fait le mal, le sachant et le voulant, c'est amer pour un homme qui vaut mieux que ses actes. Mais avoir dévoué 30 années à une œuvre, avoir cru cette œuvre utile, l'avoir poursuivie sincèrement, simplement, avoir repoussé comme injurieuse les accusations d'immoralité lancées par des adversaires passionnés, s'être tendu à ne jamais douter de son esprit et tout d'un coup, à la lumière d'une révélation foudroyante, tenir une preuve indiscutable, une preuve réelle comme la vie elle-même, que cette œuvre a empoisonné une âme, qu'elle portait en elle un principe de mort, qu'elle répond à l'heure présente ce principe dans tous les coins du monde. Ah, la cruelle secousse à recevoir et la cruelle blessure, quand la secousse ne devrait durer qu'une heure et la blessure se fermer aussitôt. Tous les penseurs révolutionnaires ont connu de ces heures d'angoisse, mais la plupart les traversent vite. Voici pourquoi il est rare qu'un homme soit lancé dans la bataille des idées sans bien vite devenir le comédien de ses premières sincérités. On soutient son rôle, on a des partisans, et surtout, on arrive bientôt, par le frottement avec la vie, à cette conception de l'à peu près qui vous fait admettre comme inévitable un certain déchet de votre idéal. On se dit que l'on a fait du mal ici, du bien ailleurs, et quelquefois qu'au demeurant, le monde et les gens iront toujours de même. Chez Adrien Sixte, la sincérité était trop entière pour qu'un pareil raisonnement fût possible. Il n'avait, lui, ni rôle à jouer, ni fidèle à ménager. Il était seul. Sa philosophie et lui ne formaient qu'un, et les compromis dont s'accompagne toute grande renommée n'avaient rien entamé dans sa belle âme farouche et fière de savant. Il faut ajouter qu'il avait trouvé le moyen, grâce à sa parfaite bonne foi, de traverser la société sans jamais la voir. Les passions qu'il avait dépeintes, les crimes qu'il avait étudiés, il les voyait comme ces personnages que désignent les observations médicales. Ah, 35 ans, telle profession, célibataire. Et l'exposition du cas se développe sans un détail qui donne au lecteur la sensation de l'individuel. Pour tout dire, jamais le théoricien rigoureux des passions, l'anatomiste minutieux de la volonté, n'avait vu bien en face une créature de chair et d'os. En sorte que le mémoire de Robert Gresloup ne se trouvait pas seulement parler à sa conscience de philosophe. Il devait mordre, et il mordait sur l'imagination de l'homme à la manière dont la clarté du soleil mord sur la pupille d'un malade opéré soudain de la cataracte. Aussi, pendant les 8 jours qui suivirent cette première lecture, ce fut comme une obsession continuelle, et cette obsession augmenta la douleur morale, en la doublant d'une sorte de malaise physique. Ce cerveau de manieur d'abstraction subissait comme l'étreinte d'un cauchemar précis et concret. Le philosophe le voyait, son funeste disciple, tel qu'il l'avait vu là, dans cette même chambre, posant les pieds sur ce même tapis, appuyant son bras sur cette même table, respirant, bougeant. Derrière les mots écrits sur le papier, il entendait cette voix un peu sourde qui lui prononçait la terrible phrase « J'ai vécu avec votre pensée et de votre pensée si passionnément, si complètement. » Et tous les mots de la confession, au lieu de rester de simples caractères, écrits avec de l'encre froide sur du papier, s'animaient ainsi en paroles derrière lesquelles il sentait vivre un être. « Ah, songeait-il, quand cette image était trop forte, pourquoi la mère m'a-t-elle apporté ce cahier ? » Il était si naturel que la malheureuse femme, en proie à sa folle anxiété de prouver l'innocence de son fils, eût violé ce dépôt. Mais non, Robert l'avait sans doute trompé avec cette hypocrisie dont il se vantait, le misérable, comme d'une conquête psychologique. Cela seul, cette hantise obsédante du visage du jeune homme, suffisait à bouleverser Adrien Sixte. Quand cette mère lui avait crié « Vous avez corrompu mon fils », car elle le lui avait crié. Sa sérénité de savant avait à peine été touchée. Pareillement, il n'avait opposé que le mépris aux accusations du vieux Jussat, répétées par le juge, et à la phrase de ce dernier sur la responsabilité morale. Comme il était sorti tranquille, intéressé même et presque allègre du palais de justice, et maintenant ce mépris, il ne le retrouvait plus en lui. Cette sérénité, elle était vaincue, et lui, le négateur de toute liberté, lui, le fataliste qui décomposait la vertu et le vice avec la brutalité d'un chimiste étudiant un gaz, lui, le théoricien de l'universel mécanisme, et qui jusqu'alors avait toujours connu l'harmonie parfaite de son cœur et de son esprit, il souffrait d'une souffrance en contradiction avec toutes ses doctrines, il avait des remords, il se sentait responsable. Ce fut seulement après ces 8 jours d'un premier saisissement, une fois le mémoire lu et relu, à pouvoir en réciter toutes les phrases, que ce conflit du cœur et de l'esprit devint lucide chez Adrien Sixte, et alors le philosophe tenta de réagir. Il se promenait au jardin des plantes, par une après-midi de cette fin de février, douce comme un printemps. Il s'assit sur un banc, dans son allée favorite, celle qui longe la rue de Buffon, et au pied d'un acacia de Virginie, étayé de béquilles de fer, garni de plâtras comme un mur, avec des branches nouées comme les doigts d'un géant goutteux. L'auteur de la psychologie de Dieu aimait ce vieux tronc desséché de toute sève, à cause de la date inscrite sur la pancarte et qui constituait l'état civil du pauvre arbre. Planté en 1632. 1632, l'année de la naissance de Spinoza. Le soleil de 2 heures était ce jour-là très doux, et cette impression détendit les nerfs du promeneur. Il regarda autour de lui distraitement et se plut à suivre le manège de 2 enfants qui jouaient auprès de leur mère. Ils ramassaient du sable avec des pelles de bois pour en construire une maison imaginaire. À un moment, l'un d'eux se releva dans un geste de brusquerie et il cogna de la tête contre le banc qui se trouvait derrière lui. Il devait s'être fait beaucoup de mal car son petit visage se contracta dans une grimace de douleur et il eut, avant de fondre en larmes, ces quelques secondes de silence suffoqué qui précèdent les sanglots des enfants. Puis, dans un accès de rage furieuse, il se retourna contre le banc dont il frappa le bois de son poing fermé, furieusement. « Es-tu bête, mon pauvre Constant ?» lui dit sa mère en le secouant et lui essuyant les yeux. « Allons, mouche-toi » et elle le moucha. « Quand tu te seras mis en colère contre un morceau de bois, ça t'avancera bien. » Cette scène avait diverti le savant. Lorsqu'il se leva pour continuer sa promenade sous son bon soleil, il y pensa longuement. « Je ressemble à ce petit garçon, » se disait-il. « Dans sa naïveté d'enfant, il anime un objet inanimé, il le rend responsable. Et moi, que fais-je d'autre, depuis plus d'une semaine ?» Pour la première fois depuis la lecture des mémoires, il osa formuler sa pensée avec la netteté qui était la marque propre de son esprit et de tous ses travaux. « Moi aussi, je me suis cru responsable pour une part dans cette affreuse aventure. » Responsable, ce mot n'a pas de sens. Tout en cheminant vers la porte du jardin, puis vers l'île Saint-Louis et vers Notre-Dame, il reprenait le détail des raisonnements dirigés contre cette notion de responsabilité dans l'anatomie de la volonté, surtout sa critique de l'idée de cause. Il avait toujours tenu particulièrement à ce morceau. « Voilà qui est évident, » conclut-il, et puis, après s'être ainsi enfoncé la certitude une fois de plus dans son intelligence, il se contraignit de penser à Gresloup, à celui de maintenant, prisonnier dans la cellule numéro 7, au fond de la maison d'arrêt de Rion, et au Gresloup d'autrefois, au jeune étudiant de Clermont penché sur les pages de la théorie des passions et de la psychologie de Dieu. Il éprouva de nouveau une sensation insupportable que ses livres eussent été ainsi maniés, médités, aimés par cet enfant. « Que nous sommes doubles, » songea-t-il. Et pourquoi cette impuissance à vaincre des illusions que nous savons mensongères ? Tout d'un coup, une phrase du mémoire de Gresloup lui revint à la tête. « J'ai des remords quand les doctrines auxquelles je crois, les vérités que je sais, les convictions qui forment l'essence même de mon intelligence, me font considérer le remords comme la plus niaise des illusions humaines. » L'identité entre son état moral actuel et l'état moral de son élève lui apparut comme si haïssable qu'il essaya de s'en débarrasser par un nouveau raisonnement. « Eh bien, se dit-il, imitons les géomètres, admettons comme vrai ce que nous savons être faux, procédons par l'absurde. Oui, l'homme est une cause et une cause libre, donc il est responsable, soit. Mais quand, où, comment ai-je mal agi? Pourquoi ai-je des remords à propos de ce scélérat? Quelle est ma faute ? Il rentra, décidé à passer en revue toute sa vie. Il s'aperçut, tout petit enfant, et qui travaillait à ses devoirs avec une minutie de conscience digne de son père l'horloger. Plus tard, quand il avait commencé de penser, qu'avait-il aimé, qu'avait-il voulu ? La vérité. Quand il avait pris la plume, pourquoi avait-il écrit, pour servir quelle cause ? La vérité. À la vérité, il avait tout sacrifié, fortune, place, famille, santé, amour, amitié, et qu'enseignait même le christianisme, la doctrine la plus pénétrée des idées contraires aux siennes, paix sur la terre aux hommes de bon vouloir, c'est-à-dire à ceux qui ont cherché la vérité. Pas un jour, pas une heure, dans ce passé qu'il scrutait avec toute la force du plus subtil génie mis au service de la plus intègre conscience, il n'avait manqué au programme idéal de sa jeunesse, formulé autrefois dans cette noble et modeste devise, dire toute sa pensée, ne dire que sa pensée. C'est le devoir, cela, pour ceux qui croient au devoir, se dit-il, et je l'ai rempli. Cette nuit, et au sortir de cette méditation courageuse sur son passé de travailleur intègre, ce grand honnête homme put s'endormir enfin, et d'un sommeil que le souvenir de Robert Greylou ne troubla pas. En se réveillant, au lendemain de cette sorte de confession générale faite à lui-même et pour lui-même, Adrien Sixte se retrouva calme encore. Il était trop habitué à se regarder vivre pour ne pas chercher la cause de cette volte-face dans ses impressions, et d'une bonne foi trop entière pour ne pas reconnaître cette cause. Il la devait, cette accalmie momentanée de ses remords, au simple fait d'avoir admis comme vrai, pendant quelques heures, des idées sur la vie morale qu'il condamnait par sa raison. Il y a donc des idées bienfaisantes et des idées malfaisantes, conclut-il. Mais quoi ? La malfaisance d'une idée prouve-t-elle sa fausseté ? Supposons que l'on puisse cacher au marquis de Jussa la mort de Charlotte. Il vivrait avec l'idée que sa fille est vivante, elle aussi. Cette idée lui serait salutaire. En serait-elle vraie pour cela ? Et inversement. Adrien Sixte avait toujours considéré comme un sophisme, comme une lâcheté, l'argumentation dirigée par certains philosophes spiritualistes contre les funestes conséquences des doctrines nouvelles, et généralisant le problème, il se dit encore « Tant vaut l'âme, tant vaut la doctrine, la preuve en est que Greylou a transformé les pratiques religieuses en un instrument de sa propre perversité. » Il reprit le mémoire pour y rechercher les pages consacrées par l'accusé à ses sensations d'église. Puis, cette lecture le fascinant de nouveau, il relut tout ce long morceau d'analyse, mais en s'attachant cette fois à chacun des passages où son nom, ses théories, ses ouvrages étaient mentionnés. Il appliquait toute sa force d'esprit à se démontrer que chacune des phrases citées par Greylou ait pu justifier des actes absolument contraires à ceux que le morbide jeune homme avait justifiés par elle. Cette reprise attentive et minutieuse du fatal manuscrit eut pour effet de le rejeter dans un nouvel accès de son trouble intime. Les raisonnements n'y faisaient rien. Avec sa magnifique sincérité, le philosophe le reconnaissait. Le caractère de Robert Greylou, déjà dangereux par nature, avait rencontré dans ses doctrines à lui comme un terrain où se développait dans le sens de ses pires instincts, et ce qui ajoutait à cette première évidence une autre, non moins douloureuse, c'est qu'Adrien Sixte se trouvait radicalement impuissant à répondre au suprême appel jeté vers lui par son disciple du fond de son cachot. De tout ce mémoire, les dernières lignes étaient celles qui remuaient dans le philosophe la corde la plus profonde. Quoique le mot de dette n'y fût pas prononcé, il sentait comme un droit de ce malheureux sur lui. Greylou disait vrai. Un maître est uni à l'âme qui l'a dirigé, même s'il n'a pas voulu cette direction, même si cette âme n'a pas bien interprété l'enseignement par une sorte de lien mystique et qui ne permet pas de jeter à certaines agonies morales le geste indifférent de Ponce Pilate. Ce fut là une seconde crise, plus cruelle peut-être que la première. Quand il avait été saisi de cette affolante angoisse à l'aspect des ravages produits par son œuvre, le savant était surtout la victime d'une panique. Il pouvait se dire, et il s'était dit, que le sursaut de la terrible révélation agissait sur lui. À présent qu'il était de sang-froid, il mesurait, avec une précision affreuse, l'impuissance de sa psychologie, si savante fut-elle, à manier ce mécanisme étrange qui est une âme humaine. Que de fois, pendant cette fin de février et dans les premiers jours de mars, il commença pour Robert Greylou des lettres qu'il se sentait incapable d'achever. Qu'avait-il à dire en effet à ce misérable enfant ? Qu'il faut accepter l'inévitable dans le monde intérieur comme dans le monde extérieur ? accepter son âme comme on accepte son corps. Oui, c'était le résumé de toute sa philosophie. Mais c'est inévitable, c'était ici la plus hideuse corruption dans le passé et dans le présent. Conseiller à cet homme de s'accepter lui-même, avec toutes les scélératesses d'une nature pareille, c'était se faire le complice de cette scélératesse. Le blâmer, au nom de quel principe l'eût-il fait, après avoir professé que la vertu et le vice sont des additions, le bien et le mal des étiquettes sociales sans valeur, enfin que tout est nécessaire dans chaque détail de notre être comme dans l'ensemble de l'univers. Quel conseil lui donnerait-il davantage pour l'avenir? Par quelle parole empêcher que ce cerveau de 22 ans ne fût ravagé d'orgueil et de sensualité, de curiosité malsaine et de dépravants paradoxes? Démontrerait-on à une vipère, si elle comprenait un raisonnement, qu'elle ne doit pas sécréter son venin? Pourquoi suis-je une vipère? Répondrait-elle. Cherchant à préciser sa pensée par d'autres images empruntées à ses propres souvenirs, Adrien Sixte comparait le mécanisme mental démonté devant lui par Robert Grelot, aux montres dont il regardait, tout petit, aller revenir les rouages sur l'établi paternel. Un ressort marche, un mouvement suit, puis un autre encore. Les aiguilles bougent. Qui enlèverait, qui toucherait seulement une pièce, arrêterait toute la montre. Changer quoi que ce fût dans une âme, ce serait arrêter la vie. Ah, si le mécanisme pouvait de lui-même modifier ses rouages et leur marche! Si l'horloger reprenait la montre pour en refaire les pièces. Il y a des créatures qui reviennent du mal au bien, qui tombent et se relèvent, qui déchoient et se reconstituent dans leur moralité. Oui, mais il y faut l'illusion du repentir, qui suppose l'illusion de la liberté et celle d'un juge, d'un père céleste. Pouvait-il, lui, Adrien Sixte, écrire au jeune homme « Repentez-vous », quand sous sa plume de négateur systématique ce mot signifiait « Cessez de croire à ce que je vous ai démontré comme vrai ». Et pourtant, c'est affreux de voir une âme mourir sans rien essayer pour elle. Arrivé à ce point de sa méditation, le penseur se sentait acculé à l'insoluble problème, à cet inexpliqué de la vie de l'âme, aussi désespérant pour un psychologue que pour un physiologiste l'inexpliqué de la vie du corps. L'auteur du livre sur Dieu, et qui avait écrit cette phrase « Il n'y a pas de mystère, il n'y a que des ignorances », se refusait à cette contemplation de l'au-delà, qui montrant un abîme derrière toute réalité, amène la science à s'incliner devant l'énigme et à dire un « je ne sais pas, je ne saurai jamais » qui permet à la religion d'intervenir. Il sentait son incapacité à rien faire pour cette âme en détresse et qu'elle avait besoin d'un secours qui fût pour tout dire surnaturel. Mais de prononcer seulement une pareille formule lui semblait, d'après ses idées, aussi fou que de mentionner la quadrature du cercle ou d'attribuer trois angles droits à un triangle. Un événement bien simple acheva de rendre cette lutte intime plus tragique en imposant à ce philosophe une action immédiate. Une main anonyme lui envoya un journal qui contenait un article d'une violence extrême contre lui et contre son influence à propos de Robert Grelot. Le chroniqueur, évidemment inspiré par quelques parents ou quelques amis des Jussas, flétrissait la philosophie moderne et ses doctrines incarnées dans Adrien Sixte et quelques autres savants. Puis il réclamait un exemple. Dans un paragraphe final, improvisé à la moderne, avec ce réalisme d'image qui est la rhétorique d'aujourd'hui, comme le poétisme de la métaphore fut la rhétorique d'autrefois, il montrait l'assassin de Mademoiselle de Jussa montant à l'échafaud et toute une génération de jeunes décadents corrigés du pessimisme par cet exemple. Dans toute autre circonstance, le grand psychologue aurait souri de cette déclamation. Il eût pensé que l'envoi venait de son ennemi du moulin, et il eut repris des travaux commencés avec la tranquillité d'Archimède, traçant ses figures de géométrie sur le sable pendant le sac de la ville. Mais à la lecture de cette chronique griffonnée sans doute sur un coin de table au café Tortoni par un moraliste du boulevard, il aperçut là un fait auquel il n'avait pas songé, tant ce spéculatif était égaré loin du monde social par la folie de l'abstraction, à savoir que ce drame moral était doublé d'un drame réel. Dans quelques semaines, quelques jours peut-être, celui de l'innocence duquel il possédait une preuve allait être jugé. Or, pour la justice des hommes, le séducteur de Mademoiselle de Jussa était innocent, et si ce mémoire ne constituait pas un témoignage décisif, il présentait un indiscutable caractère de véracité qui suffisait à sauver une tête. Allait-il la laisser tomber, cette tête, lui, le confident des misères, des hontes, des perfidies du jeune homme, mais qui savait aussi que ce scélérat intellectuel n'était pas un meurtrier? Sans doute il était lié par l'engagement tacite contracté en ouvrant le manuscrit. Mais cet engagement-là était-il valable devant la mort? Il y avait dans ce solitaire assailli depuis un mois par la tourmente morale, un tel besoin physique d'échapper au rongement inefficace et stérile de sa pensée par une volonté positive, qu'il éprouva comme une détente lorsqu'il se fut enfin fixé à un parti. D'autres journaux, consultés anxieusement, lui apprirent que l'affaire Gresloup passait aux assises de Rion le vendredi 11 mars. Le 10, il donnait à Mariette cet ordre de préparer sa valise qui avait tant surpris la servante, et le soir même, il prenait le train après avoir jeté à la poste une lettre adressée à M. le comte André de Jussat, capitaine de dragons, en garnison à Lunéville. Cette lettre, non signée, contenait simplement ces lignes. « Monsieur le comte de Jussat a en main une lettre de sa sœur qui contient la preuve de l'innocence de Robert Gresloup. Permettra-t-il que l'on condamne un innocent ?» Le psychologue nihiliste n'avait pas pu écrire les mots « droit » et « devoir », mais sa résolution était prise. Il attendrait que le procès fût fini pour parler, et si Monsieur de Jussat se taisait jusqu'au bout, si Gresloup était condamné, il déposerait le mémoire entre les mains du président sur l'heure même. Il a pris son billet pour Rion, dit Mademoiselle Trappenard au père Carbonnet, en revenant de la gare où elle avait accompagné son maître, presque malgré lui. Mais cette idée de s'en aller là-bas, seul, par ce froid, lui qui est si bien ici. Soyez tranquille, Mademoiselle Mariette, lui répondait l'astucieux portier. Nous saurons tout ça un jour. Mais rien ne m'ôtera de l'idée qu'il y a quelque fils illégitime là-dessous. Et comme il était en train de prendre une infusion de menthe que Madame Carbonnet lui préparait chaque soir pour son estomac, il dégusta une gorgée en disant « Passe donc, nanan, gourmand tâtant !» pendant que le coq usait son bec à déchiqueter un morceau de sucre que son maître avait détaché pour lui donner. « Allons, Ferdinand, vous ne suivriez pas vos cocorios comme ce Sixte. Vous auriez trop à faire, grand débardé !»